Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive.
Ma.
On va s'attaquer à un sujet, comment dire, assez brûlant, hein?
Oui, un sujet d'actualité.
Oui, les jeunes et les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Entre les articles, les guides, les avis d'experts, on s'y perd un peu.
C'est vrai.
On va essayer de vous donner les clés pour comprendre un peu tout ça. On a des articles de RTS, on a un guide de Pro Juventut, on a des avis de spécialistes.
L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble.
Voilà. Et puis de se forger sa propre opinion.
Aller au-delà des pour ou contre, quoi.
Exactement. Et on commence tout de suite avec la Suisse. Figurez-vous que sept cantons romands envisagent de créer des lois pour encadrer l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs.
Ah oui.
Ouais.
Bon.
C'est une info de la RTS du 4 décembre dernier.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient de tous les bords politiques. On a la gauche, on a même l'UDC.
Ah oui, quand même.
C'est pour dire que ça préoccupe vraiment tout le monde.
Oui, ça montre que c'est un sujet qui transcende les clivages politiques.
Tout à fait. Et l'un des députés qui porte ce projet, c'est Vincent Eschmann, un élu jurassien. Il était sur Forum à la radio.
Oui, je l'ai entendu.
Il a donné des arguments assez percutants. Il parle de santé mentale, de l'impact sur les relations dans la vraie vie.
Surtout à l'école.
Exactement. Il dit qu'il faut un minimum de règles.
Sans pour autant tout interdire.
Voilà, trouver un juste milieu.
C'est ça. Et ça nous amène à la question de quand est-ce qu'on donne un smartphone à un enfant?
Ah, la fameuse question. Et justement, Pro Juventut, dans leur guide, ils disent qu'il n'y a pas de réponse toute faite.
Ah, bon cheveu.
Non, pas de lien automatique avec l'âge ou le niveau scolaire.
C'est intéressant, ça.
Chaque enfant est différent.
Oui, c'est sûr.
Eux, ils insistent sur le développement de l'enfant, la maturité numérique et surtout la discussion en famille.
La communication, c'est la clé.
Ils ont même fait une checklist pour aider les parents.
Ah oui.
On ne va pas tout détailler, mais ça part des règles d'utilisation, de la protection des données.
Le temps d'écran.
Voilà, tout ça. L'idée, c'est de bien se préparer avant de se lancer.
C'est important, ouais.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette approche rejoint celle de Claire Balaise, une spécialiste du numérique.
Oui, je le connais.
Elle a écrit un document sur la protection des mineurs sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Eh bien, elle dit que plutôt que de tout interdire, il faut éduquer.
Lui apprendre à s'en servir de manière responsable.
Exactement. On pourrait imaginer que ces projets de loi en Suisse, ça stimule des programmes d'éducation numérique dans les écoles.
Oui, ce serait une bonne chose.
Des cours sur la citoyenneté numérique, la protection des données, la lutte contre le cyberharcèlement.
Tout à fait. Mais bon, réglementer l'accès aux réseaux sociaux, c'est pas simple.
Non, vous avez raison. Déjà, la vérification de l'âge, ça se contourne facilement.
Ah oui, complètement.
On parle même de double contrôle d'identité avec reconnaissance faciale.
Ah ouais.
Mais ça pose des questions sur la protection des données.
Oui, c'est sûr.
Est-ce qu'on veut vraiment donner encore plus de pouvoir aux géants du web?
C'est une question à se poser.
Et puis, il y a la dimension internationale. L'article de la RTS du 28 novembre, il parle de l'Australie.
Oui, je suis sûr.
Ils ont beau mettre en place des règles strictes, les jeunes, ils utilisent des VPN.
C'est ça.
Donc, il faut une collaboration internationale.
Oui, c'est indispensable.
Sinon, ça sert à rien.
Exactement.
D'ailleurs, Niels Weber, un psychologue spécialisé dans l'hyperconnectivité, il dit un truc intéressant. Il dit que limiter l'accès aux réseaux sociaux, ça peut avoir l'effet inverse.
Ah bon, c'est-à-dire as bas.
Eh bien, il explique que si on prive les jeunes d'accès de manière autoritaire, eh bien, ils vont moins parler aux adultes quand ils ont des problèmes en ligne.
Ah oui, je vois.
Un peu comme avec l'alcool ou la cigarette, quoi.
L'interdiction ne résout pas forcément le problème.
C'est ça. Ça peut même l'aggraver.
Oui, c'est un parallèle intéressant.
Donc, il faut réfléchir à des solutions plus globales.
Absolument. Trouver un équilibre entre la protection et la liberté.
C'est ça.
Plutôt que de tout interdire, ouais.
C'est ça. L'idée, c'est de leur donner les clés pour naviguer de manière responsable.
Oui, leur donner les moyens de faire des bons choix.
Et puis, honnêtement, on parle beaucoup des risques, mais il faut aussi dire que les réseaux sociaux, ça peut être positif pour les jeunes.
Ah oui, bien sûr. Et des aspects positifs, c'est indéniable.
Ça peut les aider à être plus sociables, à s'exprimer, à découvrir des passions.
Exactement, ça peut être un vrai vecteur d'épanouissement.
Et puis, ça leur permet de s'informer, de s'engager pour des causes.
De créer des liens avec des gens qui partagent leurs intérêts.
Exactement. Parfois même au-delà des frontières. Imaginez l'impact positif que ça peut avoir.
C'est vrai, c'est un aspect qu'on oublie souvent.
D'ailleurs, certains experts disent que les priver complètement des réseaux sociaux, ça pourrait les priver d'opportunités.
Oui, je comprends ce point de vue.
Par exemple, l'accès à l'information sur la sexualité.
Ah oui, c'est un bon exemple.
Avant, c'était souvent limité à l'école ou à la famille, avec beaucoup de tabous.
Et souvent des informations erronées ou incomplètes.
Alors qu'aujourd'hui, ils ont accès à plein d'infos, de témoignages, de conseils.
Bien sûr, il y a aussi des risques, il ne faut pas se leurrer.
Des infos fausses, des contenus inappropriés.
C'est là que l'éducation et l'accompagnement des adultes sont importants.
Exactement. Il faut les aider à trier l'information, à identifier les sources fiables.
À développer leur esprit critique, quoi.
Tout à fait. Et ça rejoint l'idée de citoyenneté numérique dont on parlait.
Apprendre à se comporter de manière responsable en ligne.
Voilà. Savoir utiliser les outils, mais aussi comprendre les enjeux, les responsabilités.
C'est ça, l'impact de nos actions en ligne.
Et ça nous amène à une question importante. Est-ce que les réseaux sociaux sont la cause des problèmes qu'on observe chez les jeunes? Ou est-ce qu'ils reflètent simplement des problèmes qui existent déjà dans la société?
C'est la grande question, hein?
C'est ce que dit Niels Weber, ce psychologue.
Oui, il a raison de le souligner.
Il dit que le cyberharcèlement, la pression sociale, tout ça existait avant.
Bien sûr, les réseaux sociaux amplifient peut-être ces phénomènes.
Mais ils ne les ont pas créés.
C'est ça, il ne faut pas inverser la cause et la conséquence.
Et Monica Singler, cette professeure de droit, elle dit la même chose.
Oui, j'ai lu aussi.
Elle dit que les injures, la diffamation, ça existe aussi dans le monde réel.
C'est juste plus visible sur les réseaux sociaux.
Exactement. On a l'impression que c'est pire aujourd'hui, mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle plus.
C'est possible, oui.
Donc, il faut relativiser le rôle des réseaux sociaux.
Ne pas leur faire porter le chapeau pour tous les maux de la société.
Et ça nous invite à réfléchir aux solutions qu'on peut mettre en place en dehors du monde numérique.
Oui, comment lutter contre le harcèlement, la violence dans la vraie vie?
Comment promouvoir le respect, l'empathie?
Ce sont des questions fondamentales.
Et les réponses qu'on trouvera auront un impact sur le monde numérique aussi.
Forcément, les deux sont liés.
On ne peut séparer le monde virtuel du monde réel.
Il faut des solutions globales, systémiques.
Et ça nous amène à une autre question. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un espace public ou un espace privé?
Ah, ça, c'est une question complexe.
On a tendance à penser que c'est privé, mais dès qu'on partage quelque chose, ça devient public.
Oui, c'est tout le paradoxe des réseaux sociaux.
Et ça peut avoir des conséquences, surtout pour les jeunes.
Une photo, une blague de mauvais goût, ça peut rester en ligne longtemps.
Et ça peut les poursuivre plus tard.
Oui, les traces numériques sont difficiles à effacer.
Donc il faut les sensibiliser à cette dimension publique.
Leur faire comprendre que ce qu'ils publient peut être vu par n'importe qui.
Des employeurs, des universités.
Exactement. Il faut être conscient de son image en ligne.
Encore une fois, c'est le rôle des adultes d'accompagner les jeunes.
Leur donner les clés pour se protéger, gérer leur vie privée.
Et certains experts pointent les contradictions de notre société.
Ah oui. C'est-à-dire...
On interdit la pornographie aux mineurs, mais on tolère des contenus violents.
C'est vrai, on n'est pas toujours cohérent.
On s'inquiète des effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, mais on ne fait pas grand-chose pour améliorer l'accès aux soins psychiatriques.
C'est un peu paradoxal, oui.
On dirait que les réseaux sociaux sont devenus le bouc émissaire.
Alors qu'ils reflètent juste nos propres contradictions.
Ça nous invite à réfléchir à nos valeurs, nos priorités.
La société qu'on veut construire.
On a exploré beaucoup de choses dans cette deuxième partie.
Oui, on a fait un bon tour d'horizon.
Mais il nous reste un aspect important à aborder, l'impact des réseaux sociaux sur le développement cognitif des jeunes.
Ah oui, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats.
On va en parler dans la troisième partie de ce deep dive.
J'ai hâte d'entendre ça.
Bon, on arrive à la partie qui inquiète beaucoup de parents,
Oui.
l'impact des réseaux sociaux sur le cerveau des jeunes.
Le développement cognitif.
Voilà.
On entend beaucoup de choses là-dessus.
Les écrans, c'est nocif, ça rend incapable de se concentrer.
Oui, l'addiction aux écrans.
Est-ce que c'est vraiment aussi grave? Qu'est-ce que la science en dit là?
Il y a des études qui montrent des risques, oui.
Ah oh, oui.
Mais attention, hein, faites prudent.
Oui, nuance.
C'est un domaine où la recherche est encore en cours.
Donc pas de consensus clair là.
Pas vraiment, non. Certaines études montrent un lien avec des difficultés de concentration, des troubles du sommeil.
De l'anxiété.
Voilà. Mais d'autres ne trouvent rien de significatif.
C'est pas facile pour les parents de s'y retrouver.
Je comprends, c'est pas évident.
Alors, comment savoir si c'est un problème pour un jeune d'âge?
Il y a des signes qui doivent alerter si le jeune passe tout son temps sur les réseaux au détriment de ses autres activités.
École, amis, sommeil.
Exactement. S'il est anxieux, irritable, replié sur lui-même.
Là, il faut s'inquiéter.
Oui, et consulter un professionnel, demander de l'aide.
Mais en dehors de ces cas extrêmes, Y a-t-il des conseils pour une utilisation saine?
Oui, bien sûr. Limiter le temps d'écran. Favoriser les interactions dans la vraie vie.
Diversifier les activités.
Voilà, encourager les loisirs, le sport, la culture.
Et puis l'accompagnement des adultes en parler avec les jeunes.
Les sensibiliser aux risques, les aider à développer leur esprit critique.
Et puis donner l'exemple, hein.
Oui, c'est important si les adultes sont tout le temps sur leur téléphone.
C'est pas très crédible.
Difficile de demander aux jeunes de faire autrement.
On a tous un rôle à jouer.
Oui, l'éducation au numérique, c'est l'affaire de tous.
Et puis ne pas tomber dans la nostalgie du c'était mieux avant.
Le monde a changé, faut s'adapter.
Le numérique est là, faut apprendre à vivre avec.
En tirer le meilleur et se protéger des risques.
Voilà une belle conclusion, on a fait un beau tour d'horizon.
Oui, on a vu beaucoup de choses.
Pas de réponse simple.
C'est un sujet complexe, faut de la nuance.
De la prudence et de l'écoute.
Écouter les jeunes, les experts, et puis s'écouter soi-même.
Chaque jeune est différent, chaque situation est unique.
Trouver les solutions qui conviennent à chacun.
S'adapter, dialoguer,
Et fort,
accompagner.
sans jugement, sans culpabilisation.
C'est ça. Merci beaucoup pour cet échange passionnant.
Merci à vous.
J'espère que ce deep dive vous aura éclairé sur ce sujet complexe
Oui, donner des pistes de réflexion.
pour aborder ces questions de manière plus sereine.
C'est ça, l'important, c'est de ne pas paniquer.
Et n'oubliez pas, la réflexion continue, hein.
Bien sûr, restez curieux, informez-vous, discutez-en.
Le numérique évolue sans cesse.
Faut rester vigilant et s'adapter.
Et puis ensemble, on peut le façonner.
Le mettre au service d'une société plus juste, plus humaine.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce deep dive.
À bientôt.